franceinter.fr.
Et du nouveau donc au sujet de la composition des comètes aujourd'hui à la une de la science avec notre invitée que vous nous présentez, l'astrophysicienne Rosine Lallemand, Axel.
Vous êtes astrophysicienne Rosine Lallemand pour le laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation, le GEPI à l'Observatoire de Paris. Et aujourd'hui vous publiez un article qui propose d'utiliser les comètes pour résoudre un drôle de mystère en astronomie. On va y revenir. D'abord expliquez-nous comment on est capable de dire aujourd'hui que la matière des comètes est plus vieille que celle du système solaire.
Alors bonjour.
Bonjour.
Il s'agit d'une retombée en fait de deux choses, la fabuleuse mission Rosetta que tout le monde a suivie, et puis en même temps de mesures de plus en plus massives et perfectionnées avec les grands télescopes avec lesquels on fait des grands relevés. En fait, ce qu'on a fait, c'est revisiter, si vous voulez, un problème qui est vieux, qui date de plusieurs décennies, à la lumière des résultats récents de Rosetta et de ses grands relevés.
Alors avant d'y venir, dites-nous d'abord de quoi on parle quand on parle de matière organique.
Alors, la matière organique, c'est tout ce qui est composé ce qui compose le vivant, donc à base de carbone, hydrogène, enfin les atomes simples, azote, oxygène, etc.
Et qu'on soit bien d'accord, c'est pas de la matière vivante.
Ah non, pas du tout, pas encore.
C'est la pré-matière vivante, comment on pourrait expliquer ça? Ce sont les briques qui vont précéder le vivant?
Ce sont les briques du vivant, oui, effectivement. D'ailleurs, il y a une frontière assez ténue entre les premiers acides aminés. Ce sont des molécules qui sont des molécules organiques complexes. Et c'est une frontière floue entre les deux domaines.
Alors, il y a 70 ans, les astrophysiciens ont découvert ce qu'on appelle des bandes diffuses interstellaires qui restent aujourd'hui inexpliquées. Et c'est à ces bandes que vous vous intéressez. Expliquez-nous un petit peu cette découverte-là.
Alors, en fait, moi je m'intéresse à ces bandes diffuses et on trouve un certain nombre de particularités avec ces mesures. Les grands relevés ont permis de montrer que leurs porteurs, qui sont donc toujours à ce jour non identifiés, à part une exception sur laquelle on peut revenir si on a le temps, mais ces molécules dont on sait que ce sont des molécules, de grosses molécules complexes et de type organique, on a montré que leurs signes de détection, qui sont ces fameuses bandes interstellaires diffuses, hein, qu'on voit sur la lumière de pratiquement toutes les étoiles lorsqu'elles sont situées derrière un nuage interstellaire, on voit ces bandes d'absorption, et leur intensité ne varie pas comme la densité, les colonnes de matière dans les nuages. Et ce qui se passe plus simplement, il y a une disparition en fait de ces espèces, donc je les appelle les porteurs des DIB, une disparition de ces espèces au cœur des nuages. Alors ce qu'on dit en même temps, on s'aperçoit que lorsque ces espèces disparaissent, les lois de rougissement de la lumière des étoiles varient, et avec des caractéristiques qui montrent que les petits grains grossissent, qu'il y a apparition de petits grains interstellaires. Et donc on pense que les porteurs de ces DIB, ces grosses molécules, en fait disparaissent parce que tout simplement elles s'agglomèrent à la surface des grains, elles constituent à l'enrichissement des grains, au grossissement des grains, grossissement qui est d'ailleurs observé, qui a été observé dans les nuages denses assez récemment. Les grains de matière interstellaire grossissent, les grains de poussière interstellaire grossissent au cœur des nuages, et en même temps, les porteurs de ces DIB disparaissent. Donc, le lien assez finalement simpliste, hein, logique, c'est que ces grosses molécules participent au grossissement des grains. Elles viennent faire des manteaux autour de ces grains. Pour les bandes diffuses.
C'est que cette matière interstellaire qui était inconnue, en s'agglomérant, constitue les comètes, c'est ça?
Voilà. Alors, on sait que les comètes sont, en fait, le lien entre comètes et matière interstellaire, il est pas nouveau, hein, puisque les comètes sont formées en même temps que les systèmes stellaires, et donc sont des résidus de la formation des systèmes stellaires, et comme les étoiles naissent de contraction de nuages interstellaires, le lien est logique. Ce que a montré Rosetta, alors là maintenant je viens justement à la partie Rosetta, qu'a montré Rosetta, c'est que le scénario maintenant très favori pour la formation de comètes telles que Shuri, c'est une accrétion, une coagulation lente et légère, disons pas non violente, je dirais. C'est-à-dire que ça a été formé par agrégation successive de petits grains qui coagulent en plus gros grains et qui finissent à faire des gros morceaux, et lesquels gros morceaux finissent par faire des morceaux de comètes. D'ailleurs, l'étape ultime, c'est les deux gros morceaux de Shuri, vous avez vu la forme de Shuri, les deux gros morceaux qui se sont collés gentiment l'un à l'autre. Mais la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de... Tout ça s'est fait gentiment, et que la matière... à ce moment-là, cette matière qui a formé les comètes a été un peu chauffée, probablement, bon, même certainement, pour évaporer des manteaux de glace, mais sans modifier le matériau des grains qui constitue la comète aujourd'hui.
Ce qui explique cette forme de cacahuète, hein, de Shuri, voilà, très particulière,
c'est ça,
qu'on a en tête. Hein,
ouais. C'est l'étape finale, pour Shuri en tout cas, de cette agglomération lente. Et qui est maintenant favorisé par les scénarios qui découlent de Rosetta, notamment par le fait qu'ils ont découvert des gaz très volatiles. Et s'il y avait eu, comme d'autres scénarios le prévoient, une espèce de grand bouillonnement, grand chauffage en même temps que la formation du Soleil, avec formation de gros objets, puis ensuite... explosion de ces objets par collision et formation des fragments, ça c'est un des scénarios pour former les comètes. Dans ces scénarios-là, les gaz volatiles ont disparu. Donc ces scénarios-là ont du mal à être expliqués aujourd'hui, en tout cas pour Shuri. Pour Shuri, donc, comme je disais, c'est l'agglomération lente de matériaux, et donc on a plus de chances de trouver derrière, dans des comètes telles que Shuri, on a plus de chances de retrouver ces grains, et à la périphérie de ces grains, des molécules complexes telles que celles qu'on pense être les responsables pour les fameuses DIB.
Quelle est la proportion de matière organique dans la composition de Shuri?
Alors, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça, c'était une grosse surprise. C'est la deuxième grosse surprise. La première, c'est le scénario, comme je disais. La deuxième, c'est la 40% de matière organique. Ah oui. C'est plus que ce qui était imaginé par le passé.
Est-ce donc cette matière organique, Rosine Lallemand, on pourrait presque dire que c'est la mémoire du milieu interstellaire, parce qu'elle est plus vieille que notre système solaire?
Alors,
justement.
Voilà, oui, bien sûr. Si elle est gardée telle qu'elle, effectivement, oui, elle est beaucoup plus vieille que le système solaire, oui.
Est-ce que cette nouveauté-là peut nous permettre de changer de façon quand on recherche la vie dans l'univers? Est-ce qu'on a envie de la chercher dans le milieu interstellaire, par exemple?
Oh, mais alors là, déjà, beaucoup de... Vous savez, il y a eu des progrès considérables en radioastronomie. Vous avez entendu parler de l'interféromètre Alma. Enfin, des molécules de plus en plus complexes sont découvertes dans le milieu interstellaire. Ça, il y a des avancées spectaculaires à ce sujet. Alors, ça reste encore des molécules avec un nombre d'atomes de carbone pour le moment. Je crois que les plus grosses, c'est 11 atomes de carbone. Alors que les fameuses DIB, on pense que ça va jusqu'à 100 ou même plus, c'est encore plus gros, quoi. C'est des super complexes, des molécules super complexes. Et ces fameuses DIB, justement, c'est même tellement complexe, et il y a tellement de possibilités de molécules, que ça fait c'est une des raisons pour lesquelles les identifications n'ont pas eu de succès, n'ont pas produit encore de résultats, parce que il est très difficile en laboratoire de fabriquer des molécules, bien qu'il y ait des gens qui fassent aujourd'hui des choses fantastiques, mais il faudrait pouvoir essayer toutes les formes de molécules, et bon, c'est évidemment extrêmement difficile, étant donné le nombre énorme d'espèces qui peuvent se former.
Quand est-ce qu'on va ramener, Rosine Lallemand, pour terminer, parce que l'heure tourne malheureusement, mais quand est-ce qu'on va ramener un petit bout de comète sur Terre?
Alors, disons que, en tout cas, ce travail, c'est un peu un plaidoyer, justement, pour ce genre de choses.
Voilà.
Parce que c'est mieux que les astéroïdes, d'une certaine façon, parce que les astéroïdes ont été beaucoup plus chauffés, et la matière n'a pas été gardée aussi intacte que dans les comètes, comme Shuri. Et donc, évidemment, un retour d'échantillons cométaires apporterait certainement probablement beaucoup d'informations sur ces molécules qui, comme je disais, exaspèrent pas mal d'astronomes, parce que quand même depuis, ça fait 70 ans que des tentatives sont faites pour les identifier, on en voit des centaines et des centaines et des centaines, et on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est quand même un peu agaçant.
Merci pour vos explications, en tout cas, Rosine Lallemand. Et puis, on se retrouve demain, Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. L'arthrose du genou qui explose dans nos sociétés modernes sédentaires. Une équipe de chercheurs internationales a comparé 2500 squelettes pour moitié actuels, pour moitié vieux de 100 ans, pour tenter de déchiffrer cette épidémie d'arthrose. Eh bien, résultat, âge égal, nos ancêtres avaient deux fois moins de traces caractéristiques d'arthrose. Selon les chercheurs, les deux explications principales à cette observation sont l'augmentation du poids moyen et l'inactivité physique. En France, un tiers des personnes de plus de 65 ans est touché. Le Chili et les peuples indigènes de l'île de Pâques votent la création d'un sanctuaire maritime autour de l'île mythique. Cette zone protégée d'une surface de 720 000 km² devient la plus grande réserve d'Amérique latine et va permettre de protéger les nombreuses espèces de requins, de thon, d'espadons qui y vivent. Les côtes qui abritent aussi un récif corallien unique étaient menacées depuis plusieurs années par la surpêche et la hausse du tourisme dans la région. Seule la pêche artisanale pratiquée par les autochtones sera désormais autorisée dans les eaux sacrées qui entourent l'île de Pâques. Et puis, connues pour être de sacrées roublardes, les femelles coucous n'ont pas fini de nous surprendre. Cet oiseau parasite qui pond dans le nid des autres pour y faire élever ses petits intrigue les chercheurs. Ils avaient remarqué qu'au moment de l'imposture, les femelles coucous poussaient un cri puissant et répétitif. Chose plutôt surprenante, car en faisant du bruit, elles risquaient davantage d'être repérées. Et bien, une étude menée par des chercheurs de Cambridge montre aujourd'hui que ce cri est en fait une imitation plutôt réussie du cri de l'épervier, un redoutable prédateur. La femelle coucou tente donc de faire diversion pour pondre ses œufs en effrayant les habitants du nid.